Alors, on a un verset dans la paracha Béar qui nous dit: Altikar meito necher, vetarbit, veyarita melocha. Ne prends pas d'intérêt, crains Hachem et que ton frère vive dans ton peuple. Ouais? Donc, ça, c'est ce qui nous dit le verset. Avant d'expliquer le verset, ce verset-là, on va ramener déjà, comme on a l'habitude, une histoire. On a Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un des grands personnages, un des premiers Amoraïm du Talmud. Et là-bas, on nous ramène que son beau-frère, c'était Resh Lakish. Un de ses beaux-frères, c'était Resh Lakish. Et Resh Lakish, c'était quelqu'un de très, très, très particulier. Pourquoi? Il faut savoir, avant de devenir le grand Resh Lakish, Tamid Chacham, Chavruta même, c'est devenu même le compagnon de Rabbi Yochanan. Avant tout, c'était un bandit. C'était un grand bandit, très réputé à cette période-là, dont même les gens avaient peur, avaient beaucoup de crainte. Et un jour, Resh Lakish marche près d'un fleuve et il voit, en plein milieu du fleuve, il voit une très belle femme. Et qu'est-ce qu'il fait, Resh Lakish? Qu'est-ce qu'il nous fait, Resh Lakish? Par envie de cette femme-là, il commence à sauter d'une rive à l'autre rive du fleuve
Pour aller là-bas.
pour aller la voir. Et il arrive près de cette femme-là et il se rend compte, en fin de compte, ce n'était pas une femme, c'était un homme. Et c'était qui cet homme-là? C'était Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan se rend compte de ce qu'a fait Resh Lakish, qu'il a sauté comme ça avec beaucoup d'énergie pour arriver vers lui. Et il lui dit: Regarde, j'ai vu que tu as sauté, tu as beaucoup d'énergie. Si tu veux, regarde, si tu fais tshuva, tu te mets dans le limud à Torah, je te donne ma sœur. Et ma sœur, sache qu'elle est très très belle, elle est encore plus belle que moi. Resh Lakish, il accepte. Et il a pris sur lui le joug de la Torah. Et il s'est marié aussi avec, donc c'est là comme ça, de cette manière-là, qu'il est devenu le beau-frère de Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish, à un point qu'il étudiait la Torah, qu'il est devenu même la chavruta de Rabbi Yochanan, comme on l'a dit. Et ils étudient ensemble des sujets, des jours et des jours. Et là-bas, on ramène que leur entente dans l'étude est arrivée vraiment à une osmose parfaite. À un point que ils ne voyaient pas le temps passer et que Rabbi Yochanan arrivait vraiment à aiguiser son esprit, à aiguiser la halakha, et aiguiser même la compréhension de la Torah grâce à Resh Lakish. Jusqu'à qu'un jour où Resh Lakish a fait une remarque à Rabbi Yochanan. Et Yochanan s'est senti touché par cette remarque qu'a fait Resh Lakish. Et à cause de ça, Resh Lakish en est tombé malade. Il en est tombé malade, il en est mort. Rabbi Yochanan, quand il a perdu sa chavruta, il est tombé dans un état de dépression énorme. Il en est tombé malade. On a essayé de lui donner des autres chavrutot, mais il n'a pas réussi à retrouver maintenant ce lien particulier, son compagnon, Resh Lakish, qui lui a apporté énormément dans son étude, dans sa vie personnelle. À un point que les Chachamim ont vu vraiment la souffrance de Rabbi Yochanan, ont prié la miséricorde divine. Et Kadosh Baruch Hu n'avait aucune autre solution que prendre la vie de Rabbi Yochanan. Et lui aussi, il en est niftar. Donc ça, c'est l'histoire entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ce qui est intéressant maintenant dans cette histoire-là, c'est que ici, on sait, en ce moment on étudie les Pirkei Avot, là-bas on nous dit qu'un des Kinyanim HaChashuvim, une des acquisitions importantes, une des conditions importantes pour arriver à acquérir la Torah, la vie, c'est avoir un ami. Avoir un ami, avoir un compagnon. Et en fait, ici, on comprend que un homme ne peut pas vivre sans un entourage, sans avoir une vie sociale. Dans la vie, par exemple, même en coaching, quand on demande à une personne, on essaie de savoir un petit peu le connaître, et ben on essaie maintenant d'étudier maintenant ces cinq domaines de vie. Et ces cinq domaines de vie, c'est ce qui va lui permettre d'avoir un équilibre dans sa vie et aussi d'avoir, on va dire, avoir un épanouissement personnel. de vraiment avoir son épanouissement personnel. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, les cinq domaines de vie, c'est important que vous le sachiez, et c'est important de réfléchir sur cinq domaines de vie où vous en êtes. Eh bien, c'est le couple, bien entendu, l'épanouissement personnel, donc tout ce que vous faites pour votre épanouissement personnel, par exemple du sport, ça peut être un exemple, la famille, d'accord ? Tout ce qui est du domaine tribal et relations sociales, donc vos amis, etc. Et le dernier, aussi au niveau de votre travail. Qu'est-ce que vous faites maintenant dans votre travail ? Comment vous en êtes ? Dans quel niveau vous êtes ? D'accord ? Et en fait, ici, on voit qu'il y a un des domaines de vie qui est complètement important, c'est le social. On peut même dire le domaine de vie, c'est pas seulement social, mais ça regroupe peut-être deux domaines de vie. C'est tout ce qui est relations tribales, donc relations amicales, et aussi tout ce qui est famille. Donc ça veut dire que c'est moi vis-à-vis des autres. Et on voit que c'est dans mon équilibre personnel, ça joue une part très, très, très importante. Un point que Rabbi Yochanan, qui a perdu son équilibre, on va dire, social, d'accord ? Il a perdu son compagnon, qui en a un point qui ne pouvait plus vivre. Il était arrivé dans un état de vraiment être malade, il est tombé malade, un point que Chachamim ont prié pour lui pour qu'il parte de ce monde. Il ne pouvait plus vivre. Ouais ? Donc on voit ici que, déjà, premièrement, l'entourage, mes chers amis, c'est quelque chose de ikari, essentiel pour une personne. À un point, c'est qu'une personne qui vit seule, qui vit dans la solitude, peut tomber malade, donc premièrement, sa santé mentale est touchée, à un point que même sa santé physique, en prend un coup. Donc on voit même aujourd'hui au niveau scientifique, on arrive à prouver, on arrive à voir que le domaine amical, donc les relations sociales que je partage, donc ce que je partage avec les autres, c'est essentiel pour ma vie. Et on va expliquer pourquoi. D'accord ? La paracha, je vous rappelle maintenant le verset qu'il y avait dans notre paracha, c'était « Ne prends pas maintenant d'intérêt chez ton prochain, chez ton frère, crains Kadosh Baruch Hu et fais vivre ton frère dans ton peuple. » D'accord ? Donc vraiment, fais-le vivre. Et ici, on comprend quelque chose de très très particulier, c'est qu'on voit que déjà la crainte d'Hachem dépend de comment moi je vais me comporter avec mon prochain. Il faut comprendre que la Torah, c'est des mitzvot qui sont Ben Adam Lamakom, donc des mitzvot qui s'adressent à Kadosh Baruch Hu, mais il y a aussi des mitzvot qui sont Ben Adam Lachavero, des mitzvot qui s'adressent aux autres, à mon prochain. Et ici, le verset nous dit, ne prends pas d'intérêt. Fais vivre ton frère, crains Hachem. C'est-à-dire que la crainte d'Hachem passera aussi par les mitzvot que j'ai vis-à-vis de mon prochain. Et ça fait partie, en fait, compte du destin d'Akosh Bourou. Ça fait partie du destin, ça fait partie du projet d'Hachem. C'est que pour se rapprocher de moi, tu dois vivre dans cette société, tu dois vivre dans cet entourage, tu dois vivre avec ce qui t'entoure afin de t'élever, afin d'être proche de moi. D'accord ? Et c'est ce qu'elle nous dit la paracha. D'accord ? C'est que premièrement, toi maintenant, tu as... Ça veut dire que la vie de ton prochain dépend de toi. Et toi, ta vie, elle dépend de ton prochain. Et c'est ce qu'elle nous dit la paracha. Ça veut dire que le fait de le soutenir, ça vient te prouver que lui sauver la vie, c'est ta responsabilité. Et plus que ça, c'est que le condamner à mort, c'est aussi de ta responsabilité. Si demain je ne soutiens pas une personne qui est dans une mauvaise situation, je ne lui donne pas tout ce qu'il faut pour le soutenir, même si vous pouvez appeler ça indirectement, vous êtes responsable. Vous serez responsable. Parce que ma vie, elle dépend de sa vie, et sa vie, elle dépend de la mienne. C'est ce qui veut dire que si toutes les interactions qu'il y a autour de moi, elles ont été faites pour moi, parce que le monde a été créé pour moi, ça vient aussi montrer autre chose, c'est que moi, j'ai une très très grande responsabilité dans ce monde-là. Que si maintenant le monde a été créé pour moi, comme la Gemara dit, Bijuliano Nivarolam, c'est que moi maintenant j'ai une responsabilité, parce que le monde, c'est moi qui dois le faire tourner, comme il se doit. J'ai une responsabilité. Donc si j'ai une responsabilité dans ce monde, j'ai automatiquement une responsabilité vis-à-vis de l'autre. D'accord ? Donc en fait, c'est toutes ces interactions-là qui vont faire vivre moi, mais qui vont faire vivre l'autre, et donc qui vont faire vivre le monde. Remarquez que quelqu'un qui commence à avoir une certaine maturité, un certain âge, la première chose qu'il veut faire, c'est quoi ? C'est se marier, construire une maison. Se marier, quand je dis se marier, c'est construire une maison. Avoir des enfants, créer, donner, partager. C'est la première chose qu'il a envie. Et le Rav Volbeu, il nous explique dans son livre, dans Alishour, dans le Chélek, dans le deuxième Chélek Chéni, dans la deuxième de bon, son fils ou dans quelle partie, il crie comme ça. Donc le Rav Volbeu ramène dans son livre, le Alishour, Chélek Chéni, il dit il y a quelque chose de magnifique, extraordinaire. Le Lachon HaKodesh, donc la langue sainte, l'Ivrit, l'hébreu, c'est la seule langue dans toutes les langues qui existent dans le monde où on écrit le mot « la vie », donc « la vie » au pluriel. Comment on dit « la vie » au pluriel ?« Chaim ». C'est un mot pluriel. Prenez toutes les langues qui existent dans le monde, vous verrez jamais le mot « Chaim » au pluriel. La vie. Et qu'est-ce que ça va nous enseigner? C'est que pour que ma vie existe, il faut qu'elle soit au pluriel. C'est quoi au pluriel? C'est-à-dire qu'elle est dépendante d'autres vies. Réellement, c'est ce qui se passe dans notre vie. Regardez, c'est que depuis qu'on est jeune, ouais, on partage des choses avec ses copains. Après, quand on se marie, on partage des choses avec son épouse. Après, on partage des choses dans son travail. On partage des choses, par exemple, avec ses enfants, etc., etc. Donc, on voit que notre vie ne passe seulement par l'interaction qu'on a avec des gens autour de nous, des gens plus proches et des gens moins proches. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est qu'on voit que même la réussite d'une personne, donc ça dépend, c'est sûr, c'est 20% de réussite, mais il y a 80% qui dépendent de, on m'a dit, on appelle ça, on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est quoi? C'est que moi, maintenant, comment, voilà, je vais ressentir les émotions, là. On l'a tous. Maintenant, il y en a qui l'ont bien mieux développé que d'autres. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle bien entendu aussi d'empathie. Ressentir, au fond, nous-mêmes, ce qu'elle ressent, la personne. C'est de se dire comme si j'étais à sa place. Comme si j'étais à sa place, je ressens la même chose. Et si je ressens dans les douleurs, je dois aussi le ressentir dans la joie. Et il y a une histoire extraordinaire comme ça de quelqu'un, vraiment un personnage qui avait vraiment réussi à vivre ça vraiment intensément, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach était à l'hôpital, ici en plus à Yerushalayim, et il vient de perdre sa femme, son épouse. Et donc, il faut imaginer, son épouse, à un point, il faut savoir que son épouse était tellement en osmose ensemble, c'est que le jour de l'enterrement, il a dit, on a l'habitude de demander pardon à la personne qui est partie. Il dit, moi, je ne sais pas sur quoi te demander pardon. Tout a été parfait. Vous voyez un peu le niveau ou pas? Et donc, le Rav Volbeu, il descend les escaliers parce qu'il vient de perdre sa femme, il rencontre un de ses élèves. Et l'un de ses élèves commence à le prendre dans les bras, dit « Kvod Arav, je viens d'avoir un bébé, je viens d'avoir un garçon. » Et le Rav, il commence à chanter, danser dans les escaliers avec lui, commence à l'embrasser, je suis super content, vraiment partager sa simcha. Et le lendemain, le jeune, il va voir le Rav, il dit « Excusez-moi, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé la dernière fois, je ne savais pas, j'étais moi à l'hôpital, je vous vois là-bas, je ne savais pas que vous venez par votre épouse, etc. etc. » etc. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il lui répond, il dit « Sache que la peine que je ressens, elle concerne que moi. » D'accord? Et maintenant, moi, je te vois en joie, en simcha, parce que tu vas avoir un heureux événement. Je n'ai pas maintenant à arriver et briser comme ça et commencer à, entre guillemets, à prendre moi ce que je ressens et te le mettre comme fardeau. Pas du tout. Maintenant, toi, tu es en joie. J'ai une mitzvah, moi. J'ai un devoir de partager ta joie, de la faire vivre, d'être empathique avec toi. Vous me suivez? Donc on voit vraiment comme ça, une des natures comme ça, assez près, c'est vraiment, vraiment unique qui existait comme ça chez le Rav Shlomo Zalman Auerbach. D'accord? On ramène l'histoire au sujet de Chouni Amagel qui un jour arrive devant un caroubier et voit comme ça un homme en train de planter ce caroubier. Et il dit à cet homme-là, il dit, excuse-moi, combien de temps ça prend pour donner des fruits le caroubier? Et qu'est-ce qu'il répond? L'homme, il dit, ça prend 70 ans. Et Roni lui dit, Roni Amagel, il dit, mais penses-tu vraiment que tu auras la chance de voir ces fruits-là? Il dit non. C'est sûr que moi, je ne les verrai pas. Mais de la même manière que moi, mes parents, mes ascendants avaient planté des arbres pour que moi, j'en profite, et bien pareil, moi, je vais profiter pour que mes petits-enfants profitent de ces fruits-là. Et lui, Roni ne comprenait pas. Il dit, mais attends, je ne comprends pas. Entre guillemets, mais quel intérêt? Je ne comprends pas ce message-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il est parti s'asseoir pour se restaurer et il s'est endormi. Il se réveille, il voit en face de lui donc le même arbre et il voit quelqu'un, un homme, en train de manger de ces fruits-là. Il lui dit, mais à cet homme-là, mais c'est toi qui as planté cet arbre-là? Il dit, non, c'est pas moi, c'est mon arrière-grand-père qui a planté cet arbre-là. Il dit, et quoi? Il dit, bah, j'en profite des fruits aujourd'hui. Et là, il s'est rendu compte qu'il s'était endormi. Il s'était endormi pendant 70 ans. Il arrive.
70 ans?
Il arrive là-bas, il arrive chez lui. Ouais. Bon, là-bas, on ne l'a complètement pas reconnu, parce que bon, c'est 70 ans qu'il a disparu, on ne sait même plus qui il était. Donc, il a dit, bon, je vais aller quand même au Beit HaMidrash. Il arrive au Beit HaMidrash, il entend parler comme ça, les divrei Torah, les Chachamim en train de parler, etc. Et il disait, voilà, on a eu la réponse par Roni Amagel, on a eu la réponse par Roni Amagel, etc. Et il arrive à les voir, il leur dit, écoutez, mais c'est moi, Roni Amagel. Il le regarde, il rigole, et il dit, bien sûr. Et donc, ils n'ont pas donné de kavod. Ils l'ont mis de côté, ils ne l'ont même pas calculé. Et de tsar, de souffrance, il dit à Hachem, écoute, regarde. Chavruta ou Metuta? Soit j'ai une chavruta, j'ai un compagnon, je veux dire que je partage des choses, ou soit Metuta, ou la mort. Comprenez ou pas? D'ici, on voit, c'est que quelqu'un maintenant qui est séparé de la société, il ne peut plus vivre. Et Roni Magel avait compris ce principe-là. Donc maintenant, encore pour terminer une histoire, encore, on va parler d'une histoire de Yov. Yov, c'était un grand chassid. Et qu'à un point que Kadosh Baruch Hu a dit, sache qu'il n'y a pas comme Yov. Un point que le Satan, il va le voir et dit, mais tu n'exagères pas un peu, Hachem? Moi, laisse-moi l'éprouver, tu vas voir. Tu vas te tromper sur lui. Et il est parti. Mais Hachem, il dit, écoute, regarde, je te donne une seule condition. Une condition. Tu ne touches pas, voilà, comme ça, il lui donnerait, ar et nafsho chez mort. Par contre, sa vie, tu fais attention. Tu ne la touches pas. D'accord? Le Satan, il a pris sa femme. Le Satan, il a pris ses garçons. Le Satan, il a pris ses filles. Il a pris ses biens. Il a pris sa richesse. Il l'a pris, il lui a donné, il a envoyé des maladies. Il l'a mis dans un piteux état. Ouais? Donc le Rosh Shiva de Slavodka, il pose une question. Il dit, on voit que le Satan, il a touché dans tous les domaines de vie à cette personne-là, à Yov. Il dit, mais par contre, il y a une seule chose qu'il n'a pas touchée. Et on voit d'ici que cette chose-là, c'est une chose qui est essentielle, c'est un domaine essentiel pour la personne. C'est quelque chose qui est primordial. Et qu'une personne qui n'a pas ça, sa vie, elle est en danger. Et quand maintenant Kadosh Baruch Hu, il dit, regarde, tu peux tout faire avec Yov, mais une seule chose, tu ne prends pas, c'est sa vie. Tu ne touches pas à sa vie. Et là-bas, c'est quoi le sens? Ben, si vous lisez maintenant Yov, vous allez voir, c'est une discussion entre lui et ses amis. Sa vie ne peut exister seulement s'il a des amis. S'il a une interaction, s'il a son entourage, c'est quelque chose qui est essentiel pour Yov. Et que si le Satan ne l'a pas touché, c'est pour nous dire que c'est sa vie. La vie passe par l'interaction, par ce que j'ai, par mes amis. Et si je n'ai pas ça, Chas v'Shalom, c'est quelqu'un qui est en danger de mort. C'est quelqu'un où sa vie est en danger, réellement. D'accord? Donc voilà, c'était vraiment le sujet aujourd'hui. Donc vraiment, venir par rapport à notre verset qui est écrit dans la paracha de la semaine, c'est « Altikar mito nesha v'etarbit v'yareta meloecha v'echa imar ». Ne prends pas d'intérêt, ne profite pas de la faiblesse de la personne en face de toi. Crains Hachem et fais vivre ton ami. Faire vivre son ami, c'est pas seulement en lui donnant une pièce de tzedaka. Demander comment ça va la personne. Demander des nouvelles, partager des choses avec elle, c'est bien, bien, bien mieux que mettre une petite pièce de tzedaka. Et même de cette manière-là, on sait qu'il y a des mitzvot ben adam chaverou, je préfère répéter, ça fait partie des, donc ces mitzvot, là, vis-à-vis de mon prochain, ce qui me permet encore une fois de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elles font partie de la Torah, elles font partie de la vie de la Torah, elles font partie de ce que je suis, d'être un juif à part entière.